RCF.
Ce dimanche, la liturgie nous propose d'ouvrir l'évangile de Marc pour lire un récit haut en couleur, teinté de fortes émotions, une double guérison qui va permettre à deux femmes de reprendre pied dans leur propre existence. Pour commenter ce passage, je reçois cette semaine Anne Lécu, elle est religieuse dominicaine et médecin en milieu carcéral. Nous commençons par écouter la parole, au chapitre 5, versets 21 à 43.
Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille encore si jeune est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, au contraire son état avait plutôt empiré, cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha cum ». Ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger.
Anne Lécu, juste un mot sur le contexte. On est dans l'évangile de Marc, il vient d'y avoir une guérison de quelqu'un qui était démoniaque et on a à nouveau une double histoire là, un récit enchâssé dans un autre.
Alors quand on regarde de près l'évangile de Marc, on voit que Jésus ne cesse de faire des allers-retours entre dedans et dehors, entre le côté d'Israël et l'autre côté de la mer, chez les Géraséniens, à la Décapole, en tout cas chez les étrangers. Et là, il revient du côté de chez les étrangers pour retourner en terre d'Israël. Donc il arrive, c'est pourquoi le texte commence par « il revient de l'autre côté ». Il revient de l'autre côté de la mer, où il était avec ses disciples à la Décapole.
Il est question d'une grande foule qui s'assemble autour de lui, il est au bord de la mer. C'est intéressant la foule parce que au fur et à mesure de ce grand passage, il y aura comme un rétrécissement du public au privé, hein, comme s'il y avait une sorte de zoom avant sur la maison et alors on parle du plus large avec la foule.
Oui, exactement. En fait, au début, il y a beaucoup de monde, on est dehors et au fur et à mesure, on va rentrer dedans et de plus en plus dedans, dans le dedans du dedans.
Jésus est avec une grande foule, il a passé de l'autre côté.
Alors en fait, il y a beaucoup de passages dès le début où Jésus est entouré par des gens, les gens viennent à lui, pour qu'il guérisse, les gens viennent à lui parce qu'il parle avec autorité. Il est parfois même acculé, il est obligé de se retirer dans la mer parce que les gens sont là. Et là, pareil, on a un sentiment que beaucoup de monde est là. Et au milieu de cette foule, une personne se distingue, qui est un inconnu dont on a le nom, un monsieur Jaïr, chef de synagogue, qui vient le rencontrer parce que sa petite fille est malade.
Alors il dit, ma fille est au bout, quoi. Alors, pratiquement,
en fait,
elle va mourir.
Oui, le grec dit, c'est la fin pour ma petite fille. Viens, il faut que tu viennes, impose les mains sur elle pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive.
Alors là, c'est contrairement au fait qu'on amène parfois à Jésus le malade, Jésus va devoir aller, c'est une demande en tout cas.
Voilà, en tout cas, c'est pareil. Donc il y a beaucoup de mouvements dans tout l'évangile de Marc au début, entre donc l'intérieur, la synagogue, l'extérieur. Et là, en fait, Jésus est invité à nouveau à sortir, donc il est au bord de la mer, il va rentrer dans la terre pour accompagner ce monsieur vers sa maison, en fait. Et on voit que la foule le suit, se presse autour de lui. Et du coup, on a un sentiment qu'il est gêné dans ses mouvements, qu'il a du mal à avancer, alors que pourtant, il y a une urgence, en fait, guérir cette petite fille.
En plus, c'est ma petite fille. On apprendra plus tard qu'elle a 12 ans, mais là, elle est qualifiée de petite.
Et c'est une petite fille. On ne sait pas encore la suite du texte.
Tout le monde part. Et puis, en cours de route, il y a une interruption, puisque là, c'est une femme qui a des pertes de sang qui se rapproche de Jésus.
Voilà. Et donc là, on a cette seconde histoire qui est encastrée dans la première, qui est une histoire en elle-même, dans ce long, long, long passage d'évangile de ce dimanche. Et voilà cette femme qui vient encore plus s'interrompre. Donc, on a vraiment le sentiment qu'il y a une forme de ralentissement incompréhensible, que Jésus ne va pas arriver à rejoindre la famille de la petite fille, parce qu'il y a cette femme qui est là, on apprendra qu'elle est malade depuis 12 ans. C'est d'ailleurs l'âge de la petite fille, on le saura tout à l'heure. On apprend que... Alors, c'est pas rien, un écoulement de sang.
Il faudra approfondir ce que ça veut dire.
Oui, alors ça, on peut l'approfondir maintenant, parce qu'en fait, un écoulement de sang, c'est pas banal. Ça veut dire qu'elle est impure depuis 12 ans. Ça veut dire qu'elle est exclue de toute vie sociale depuis 12 ans. Et en plus, le sang, c'est la vie. Donc, elle perd la vie depuis 12 ans. Donc, c'est quand même pas rien, cette histoire. Et personne n'a réussi à la guérir.
Parce que dans la tradition juive, le sang, qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça?
La perte de sang rend la femme impure, donc les règles rendent la femme impure.
C'est pour ça qu'il y a un bain rituel après les règles.
Voilà, et donc du coup, là, personne ne peut l'approcher, et donc elle est seule, cette femme.
Alors non seulement elle est seule, mais on apprend qu'elle a quand même dépensé tous ses biens, elle s'est battue sûrement pour en sortir, elle a une volonté.
Oui, elle a la volonté d'en sortir, mais la pauvre, ça n'a pas servi à grand-chose. Parce qu'en général, la volonté, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Elle va plutôt plus mal depuis qu'elle voit les médecins. Parce qu'en fait, peut-être la question n'est pas la question de sa maladie, peut-être c'est autre chose en fait. En tout cas, elle est exclue, elle a souffert, elle est pauvre, et elle a entendu parler de Jésus. Et donc, elle vient vers lui, sans doute, un peu comme Jaïr tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est au milieu de la foule, et voilà qu'elle se singularise au milieu de la foule. Mais elle vient par derrière, c'est pas une notable, comme lui pouvait l'être. Lui venait devant Jésus, elle vient par derrière, et elle touche son vêtement avec cette espèce de conviction qui, pour nous, est tout à fait touchante. C'est le cas de le dire, si je touche ses vêtements, je serai sauvée.
Donc, elle a d'abord cette parole, avant de toucher, si je touche le vêtement, il y a presque une incarnation là de son désir à travers ce geste.
C'est-à-dire que le vêtement, c'est toujours un peu dans la tradition, la personne elle-même. Donc, toucher le vêtement de Jésus, c'est toucher Jésus, en fait.
Donc, elle fend la foule pour ça.
Elle fend la foule.
Et elle le vit de manière presque incognito.
Mais complètement, elle est derrière, et puis elle veut surtout pas que ça se voit, ni que ça se sache. Et de fait, le résultat, c'est que ça marche. Son flux de sang est desséché. Et elle, alors la phrase est magnifique, hein, elle connaît en son corps qu'elle est guérie du mal qui la harcèle. Et le mot grec pour dire le mal qui la harcèle, c'est vraiment le mot supplice, c'est le fouet qui la harcèle. Le fouet, le supplice. Et elle connaît, c'est qu'elle connaît de l'intérieur. Elle sait à l'intérieur d'elle-même. Connaître et aimer, dans la Bible, c'est souvent synonyme. Donc, elle sait de source sûre qu'elle est guérie de son supplice.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Anne Lécu, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche chez Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Donc cette femme intouchable touche Jésus.
Voilà.
Et c'est très fort puisque effectivement le mal s'arrête. Alors il n'est pas du tout question de Jésus qui guérit ou on ne sait pas comment ça se passe au fond.
Non, et puis comment ça se passe, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui par contre a beaucoup d'intérêt, c'est que Jésus perçoit qu'il s'est passé quelque chose. Parce que, et du coup, on voit bien que les disciples ne comprennent rien. Parce que quand il dit « qui m'a touché ?», ils lui disent « bah attends, t'es gentil, mais il y a une telle foule que tout le monde te touche, qu'est-ce que tu veux dire ?» Enfin, tout le monde te touche. Mais lui veut absolument comprendre ce qui s'est passé. Et d'une certaine manière, enfin, et je trouve que ce passage-là est tout à fait bouleversant parce que la puissance de Jésus lui est révélée par les pauvres qu'il soulage. Et donc c'est le fait que cette femme l'ait touchée qui lui révèle qu'il a pu la guérir, qu'une force est sortie de lui. Donc il regarde aux alentours pour voir qui a fait cela et tout de suite il la repère dans la foule. Il sait lui-même que c'est elle qui l'a touchée.
Et toucher le petit bout de vêtement, moi, ça m'a fait penser aux petites miettes de la Syrophénicienne. C'est-à-dire que c'est pas en termes de quantité, mais de qualité et d'intention,
oui,
on a l'impression.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, au moment où la femme touche le vêtement de Jésus, aussitôt, nous dit Marc, Jésus se rend compte qu'une force est sortie de lui.
Oui,
alors, il regarde aux alentours.
Exactement, mais juste avant, il y a deux fois aussitôt. C'est-à-dire que le moment où elle est guérie, elle connaît dans son corps qu'elle est guérie du supplice qui la harcèle, est encadrée par aussitôt. Aussitôt se dessèche sa source de sang, aussitôt Jésus reconnaît qu'une puissance est sortie de lui. Donc, comment dire, la qualité de présence de Jésus à cette femme, elle est dans cet aussitôt. Et dans la présence d'elle-même, enfin, elle est vraiment là au moment où elle touche Jésus, elle a la ferme intention et une forme de sûreté qu'il peut la délivrer. Et c'est aussitôt ramasse-là.
Mais comment vous l'interprétez, le fait que Jésus veuille savoir qui l'a touché? C'est une manière de lui mettre un visage à cette femme?
Elle, non, il a reconnu, il a perçu, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est qu'il a perçu que la puissance qui est sortie de lui, lui est révélée par cette femme. Donc il veut savoir qui c'est, quoi.
Il veut
lui parler, certainement. Il veut s'adresser à elle pour de vrai. Il veut la faire sortir de l'anonymat, d'une certaine manière.
La femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, se jette à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Oui, alors c'est beau aussi parce qu'elle, elle a peur en se disant « Mais enfin, je suis indigne de lui, qui suis-je pour m'adresser à cet homme ?» Elle a peur, peut-être qu'elle a peur de se faire remettre à sa place, on ne sait pas en fait. Hein. Peut-être qu'elle s'est fait beaucoup rabrouer dans sa vie, cette femme. Et en tout cas, elle lui dit toute la vérité. Ça me fait penser à la Samaritaine dans l'évangile de Jean, où la rencontre est en fait un lieu de vérité. Et je pense que c'est ça qui se joue là. Quand quelqu'un est présent au Christ et quand il se fait présent à quelqu'un, c'est un lieu de vérité. Et donc elle va lui dire, et on ne sait pas ce que c'est toute la vérité. C'est sans doute pas seulement « c'est moi qui ai touché ton vêtement ». Peut-être qu'elle lui dit d'autres choses qu'il ne nous appartient pas de connaître. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la vérité qui advient dans cette rencontre. Aussi bien parce que Jésus découvre sa puissance thaumaturgique avec cette femme, et parce que c'est la foi de cette femme, c'est ça qui l'a conduite là. Et lui, il est bouleversé par la foi de cette femme.
Oui.
Il va appeler, c'est rigolo, fille, exactement comme la petite fille de Jaïr.
Jésus montre que c'est la foi avant tout qui compte, plus que le fait de toucher, pas toucher. On a l'impression qu'il renvoie la femme à elle-même finalement.
Finalement, la foi de la femme et le geste de toucher étaient la même chose. Elle est allée au bout de ce qu'elle pensait. Comment dire ? Il fallait qu'elle s'approche de Jésus. Et s'approcher de Jésus tout en étant impure, c'était une transgression. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle avait peur. Mais c'est dans la transgression que Jésus reconnaît qu'elle a bien fait, en fait, et que sa foi la rend pure de tout. Enfin, qu'au bout du compte, sa pureté est liée à sa foi et pas du tout à son impureté par le sang.
Alors, ce récit, Anne Lécu, enchâssé dans le grand récit que nous lisons, nous retrouvons après Jaïr, puisque tout le monde est parti vers Jaïr où souffre cette jeune fille qui, dit-on, est morte, puisqu'il y a des gens qui arrivent et qui disent, au fond, ça ne sert à rien que tu viennes, ta fille vient de mourir.
Alors, il y a des liens entre nos deux histoires, et là, il faut peut-être les noter. C'est pas par hasard que, parce qu'on a l'impression qu'on saute du coq à l'âne. Il est question d'une fille, hein, parce que Jésus va dire à la femme qu'il vient de guérir, « Fille, ta foi t'a sauvée ». Cette femme, elle était malade depuis 12 ans, la petite fille, elle a 12 ans. Il est question de foi, puisque Jésus va dire au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement ». Et puis, ça nous fait penser aussi à une autre histoire, on arrive trop tard, on a l'impression qu'il arrive trop tard, exactement comme pour Lazare. Et en fin de compte, j'ai relu un commentaire de Marc Damonville, ancien père abbé dans Calcate, sur l'évangile de Marc. Il a une formule magnifique, il dit « Le lieu d'une foi vivante est souvent un trop tard ». C'est-à-dire qu'en fin de compte, même quand on arrive trop tard, quand il n'y a plus de raison d'espérer, c'est peut-être le moment où la foi commence à ressembler à quelque chose.
C'est ça le christianisme.
Et c'est peut-être ça la foi chrétienne. Voilà. C'est peut-être quand c'est trop tard, devant un tombeau, que nous pouvons, tout en persévérant dans la présence, eh bien, espérer, contre toute espérance, que la vie arrive. Et c'est ce qui va se passer.
Il y a un détail important, enfin, en tout cas, on peut le noter. Tout le monde ne suit pas vers la maison, puisque Jésus décide de prendre simplement Pierre, Jacques et Jean, ces trois disciples qui seront présents à la Transfiguration et aussi à Gethsémani. Comment vous l'interprétez ?
Il prend avec lui les plus proches, de façon aussi à ce qu'il soit témoin de ce qui va se passer. Et puis je pense qu'il y a une explication pour le coup ordinaire, qui est qu'il y a tellement de monde qu'à un moment donné, quand on est dans des situations de crise, il faut aussi un petit peu calmer la foule, se mettre à l'écart pour pas être envahi par la foule, et c'est ce que fait Jésus. Et pour autant, il doit faire ça deux fois, parce que il doit d'abord prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils arrivent dans la maison du chef de synagogue, et là, il y a encore beaucoup de monde. Il y a encore un tumulte, il y en a qui crient, il y en a qui pleurent, et il doit insister en disant « l'enfant n'est pas morte ». Elle dort, il y a beaucoup de bruit, il y en a qui ricanent parce qu'ils se disent « mais il n'a rien compris, elle est morte cette petite », et il doit les jeter dehors. Donc on a l'impression que cette mise à l'écart, en fait, le fait de prendre avec lui quelques-uns, se produit à deux niveaux. Tout d'abord, il prend avec lui ses proches, et puis il doit ensuite prendre avec lui seulement le père de l'enfant, la mère de l'enfant et ses amis. Et là, il pénètre à l'intérieur de l'intérieur, en quelque sorte. Il est déjà dans la maison. Il va pénétrer dans le dedans du dedans de la maison, au cœur du cœur. Où est l'enfant ?
Alors qu'on partait de très loin, puisque ça partait la scène du lac, la foule,
voilà.
Et il y a un rétrécissement.
Voilà. Donc on était dehors avec plein de monde, et au fur et à mesure, on se focalise sur le cœur du cœur, ou peut-être c'est un peu plus calme, là où est l'enfant.
Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Anne Lécu, Marc nous dit que Jésus saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha cum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». La fille se lève et se met à marcher car elle avait 12 ans. Comment vous lisez ces versets ?
Alors déjà, il va toucher l'enfant. Par contraste avec la femme de tout à l'heure, la femme a touché Jésus. Cette fois, c'est Jésus qui touche l'enfant. Il lui parle sa langue en araméen, ce qui veut dire « petite jeune fille, je te le dis, dresse-toi ». Et le verbe « égaïré » en grec, c'est le verbe de la résurrection. Il y a plusieurs verbes, et là on va avoir les deux verbes de la résurrection. Celui qui veut dire « dresse-toi » et celui qui est juste utilisé après quand la jeune fille se lève. Elle se lève, Anastasia, en fait c'est un autre terme pour la résurrection. Donc vraiment, et non seulement elle se lève, mais elle marche. Donc, comment dire, souvent le fait de marcher, ça relève de la foi. Elle est elle-même auteur de sa propre foi. C'est plus seulement la foi de son papa qui est allé chercher Jésus. Voilà que cette jeune fille, eh bien, elle se dirige vers l'âge adulte, en fait.
Et ça n'est pas
une marcher par elle-même.
Et ça n'est pas une petite fille, finalement. C'est une adolescente.
Pourtant, il lui a dit petite jeune fille. Hein. Mais en fin de compte, après, on a le terme jeune fille. C'est une adolescente qui se lève.
Donc là, Jésus est rentré en action. On a l'impression que par rapport au récit précédent où il était là et les choses lui échappaient, il prend les choses en main et il va chercher. Et là, l'image de la résurrection est très forte. Avec la main, il va chercher cette fille.
Il va chercher cette petite. Et puis peut-être que c'est une sorte de rite de passage entre l'enfance et l'âge adulte. Peut-être que désormais, elle est redressée pour marcher vers sa vie d'adulte. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce rapport entre ces deux femmes, la femme adulte malade depuis 12 ans, l'enfant qui a 12 ans et qui va devenir une femme adulte, parce qu'à 12 ans, c'est l'âge de la puberté. Et donc voilà, cette jeune femme, elle marche vers son avenir, en quelque sorte.
Il s'est passé dans ce récit des choses très importantes, donc deux guérisons, et Jésus, pourtant, à la fin, dit aux personnes, ne parlez pas de ce qui vient de se passer. Le secret messianique, on le retrouve beaucoup dans Marc.
Tout à fait. En fait, Jésus, tant qu'il n'a pas été exposé sur la croix, et on le vérifie dans tout l'évangile, en fait, les disciples ne peuvent rien comprendre pour l'instant. Ils ne comprennent rien. Donc je crois que le secret messianique, c'est une manière pour Jésus de dire, tant que vous n'avez pas la fin de l'histoire, vous n'allez pas forcément tout comprendre. Voilà. Mais ça ne marche pas du tout, parce que tout le monde proclame autour de lui qu'il fait des miracles, mais ils n'ont pas tout à fait compris que le véritable miracle n'est pas de faire des prodiges et de guérir des jeunes malades, mais de marcher avec nous jusqu'à donner sa vie dans le silence et l'abandon. Là, il n'y aura plus grand monde, il n'y aura plus grande foule.
Anne Lécu, en quoi le texte que nous lisons ce dimanche, il nous rejoint aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? En quoi est-il une bonne nouvelle?
Alors je crois qu'il est une bonne nouvelle dans plusieurs directions. D'abord, il est une bonne nouvelle parce que nous pouvons toucher Jésus. Et quand nous ne pouvons pas, comme cette petite empêchée parce qu'elle est trop malade, c'est lui qui vient nous toucher. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Rien ne nous empêche de nous approcher de lui, y compris lorsque nous sommes impurs, ou que nous nous jugeons impurs ou indignes. Et au bout du compte, ce qui va être important, c'est la foi, mais pas seulement notre propre foi comme celle de la femme, mais la foi de notre entourage. Parce qu'en fin de compte, c'est la foi du papa qui permet que Jésus rejoigne sa petite fille. Et ça, je crois que c'est une expérience qu'on peut tous faire, c'est qu'il y a des moments dans la vie où c'est la foi des autres qui va nous rejoindre, qui va nous permettre de tenir bon. Et quand nous-mêmes, on n'a pas tellement, on ne sait plus très bien où on en est, le fait que nos proches ou des gens qu'on estime, eux, persévèrent dans la foi, est une forme d'encouragement pour nous. Et ça, je trouve que c'est aussi une bonne nouvelle.
Le fait que la femme touche par derrière le vêtement, ça peut nous apparaître à nous comme un geste superstitieux ou un peu magique. En quoi il peut nous parler, justement?
Je crois qu'il nous parle précisément parce que cette femme qui est au lieu de la loi impure s'autorise à toucher Jésus discrètement, hein, sans forcément le crier fort, parce qu'elle est convaincue qu'il n'y a pas d'impureté pour lui, à ses yeux. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans l'ordre d'un geste magique, on est dans un autre registre qui est celui d'une forme de foi extrêmement belle, qui est que rien ni personne ne peut empêcher quiconque d'approcher le Christ.
Et de lui faire une demande.
Et de lui demander quelque chose. Mais même là, elle ne demande rien. Hein. Elle le touche simplement. Elle ne demande rien. Donc rien ni personne, et l'Église non plus, ne peut pas nous empêcher d'approcher le Christ.
Il y a dans un cas Jésus qui ne touche pas et qui est touché. Dans l'autre, il est très actif et il touche et bon, il guérit. Ça nous dit quoi de la guérison? Parce que c'est quoi l'actualisation de la guérison aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire, guérir au fond?
Ça, c'est une question très compliquée. Il faudrait des heures et des heures pour en parler. Moi, je crois que lorsque Jésus guérit quelqu'un, d'abord, il ne guérit pas beaucoup de monde. Enfin, il guérit quelques aveugles, quelques lépreux, ces femmes. Quand il guérit quelqu'un, il prend sur lui la malédiction de la maladie. C'est-à-dire que quand il guérit cette femme impure, il prend sur lui une forme d'impureté. Quand il guérit cette petite de la mort, il prend sur lui la mort. Quand il guérit un lépreux, on a lu ça dans Marc, je ne sais plus dans quel chapitre, quand Jésus guérit un lépreux, voilà que c'est lui qui doit être hors de la ville, parce qu'il ne peut plus rentrer dans la ville. Donc on a l'impression qu'il porte la malédiction de façon à dissocier la malédiction de la maladie. Donc je crois que quand il guérit quelqu'un, il rend la personne à sa propre existence en lui disant que rien ne peut la séparer de Dieu parce qu'il n'y a pas de malédiction dans la maladie. Et je crois que tout geste de guérison nous dit cela, il n'y a pas de malédiction dans la maladie, il n'y a pas de malédiction dans le péché, il n'y a pas de malédiction dans la mort, car le Christ a porté la maladie, le péché et la mort pour nous délivrer de toute forme de malédiction.
Et au sujet du croire qui est là, présent, bien présent auprès des personnages hein, de ce passage, comment acquérir la confiance? Parce que oui, on aimerait croire comme cette femme.
Je ne sais pas s'il faut l'acquérir. L'acquérir, ce serait vouloir mettre la main dessus, ce serait un peu embêtant. Peut-être il faut simplement la demander cette foi.
Parce qu'elle est impressionnante, la foi de cette femme.
Oui, mais elle est impressionnante parce qu'elle est désespérée. Donc si nous n'avons pas cette foi, c'est que peut-être nous avons la chance de ne pas être assez désespérés. Donc peut-être qu'il faut remercier de ne pas l'être suffisamment. Non, je crois que la foi, il faut la demander. Et puis elle nous sera donnée à proportion de ce dont on a besoin.
En tout cas, dans ce récit, on voit que c'est dans le monde très concret qu'il intervient, notamment avec ces personnages qui nous parlent de la vie réelle. Et la famille,
Jésus
dans la deuxième partie.
Oui, hein. Jésus ne nous parle jamais d'autre chose que de la vie réelle. L'incarnation, c'est le lieu de la vie spirituelle par excellence. Il n'y a pas de vie spirituelle hors du corps, hors des questions du corps, des règles de cette femme qui ne s'arrête pas, de cette petite fille qui ne respire pas, de son papa inquiet, des gens qui courent après Jésus parce qu'ils attendent de lui quelque chose, peut-être même sans le savoir, parce qu'il parle avec autorité et que personne ne parle avec autorité autour d'eux. Voilà, c'est ça la vie réelle, c'est le corps, la parole, les gens. Ouais.
Merci à vous.
Merci
Anne
Béatrice.
Je rappelle les références de ce texte qui est assez long mais qu'il faut lire dans son ensemble. Versets 21 à 43 du chapitre 5 de l'Évangile de Marc. Et puis je signale que votre dernier livre est paru aux éditions du Cerf. À Marie, c'est un recueil de lettres, il est paru en 2020.
Merci.
Merci à vous.